Utopode 008, 11 juillet 2007, La nuit des chasseurs de Johann Elliott. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Utopode, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Vous écoutez les vibrations phoniques de Lucas Moreno, producteur et animateur de cette émission, aux côtés de Marc Tiefenauer. Chaque numéro vous propose une lecture de nouvelles de science-fiction, de fantastique ou de merveilleux. Pour tout savoir sur notre concept, rendez-vous sur www.utopode.com. Aujourd'hui, nous vous présentons un récit de Johann Elliott, La nuit des chasseurs. Il s'agit d'une nouvelle de fantasy urbaine parue en 2005 dans le numéro 17 de la revue française Auteur. Johann Elliott est considéré comme l'un des chefs de file de l'imaginaire francophone actuel. Depuis 1999, il a publié près de 40 nouvelles et 20 romans dans de nombreuses anthologies, revues et maisons d'édition, dont Folio SF, De Noël, Mnemos et Le Bélial. Il a remporté les prix Masterton et Bob Moran, ainsi que le Renier Aîné en 2001 pour son premier roman « La lune seule le sait », une uchronie steampunk devenue culte. Il écrit pour la jeunesse et œuvre parfois comme anthologiste. À noter la récente parution de son roman « Question de mort » dans la collection Club Van Helsing des éditions Baleine et la publication en septembre prochain aux éditions Mango de « La Légion écarlate », roman jeunesse transgenre que l'auteur annonce comme un western au 1er siècle après Jésus-Christ. Notre lecteur du jour n'est autre que Marc Tiefenauer, le seul, l'unique, celui qui, envers et contre tout, a étudié le sanskrit, le pali, le tibétain classique, le chinois, le vietnamien, le grec ancien et le latin, puis s'est embourbé dans les méandres de la poésie élémentaire avant de sombrer de manière définitive en devenant coproducteur d'Utopode. Lu à l'envers, son nom se prononce Reuan Efeit Kram, mais c'est plus facile à l'endroit. Et maintenant, chaussez vos sabots fourchus, remplissez vos poches de mie de pain et place à la littérature.
La nuit des chasseurs, de Johann Elliott. Chasseur déposa ses articles sur le tapis roulant et fouilla dans les poches de son manteau à la recherche de petites monnaies. Le pack de bière, le pain de mie et les allumettes, le tout ne devait pas excéder le peu d'argent qu'il avait réussi à glaner, tendant la main ici, l'apprêtant là pour sortir les poubelles du restaurant Thaï dans l'impasse où il avait garé sa camionnette 3 ans plus tôt. « 7,40 !» annonça la caissière avec une moue de dégoût. La femme ne cherchait pas à dissimuler les sentiments que Chasseur lui inspirait, mais il s'en foutait, car elle ne représenterait jamais une proie pour lui. Il déposa ses pièces dans le réceptacle prévu à cet effet, puis rassembla ses achats dans un sac plastique. Il attendit que la caissière lui rende quelque chose, deux pauvres cercles de métal ocre, pas plus épais qu'un ongle, qu'il rempocha sans rien dire. Dehors, la neige avait cessé de tomber. Enfin un bon présage. Chasseur pressa le pas en direction de l'impasse creusée entre deux hauts murs de briques noircies, une centaine de pas plus loin, sur la gauche. La plupart des habitants de la ville passaient chaque jour devant cette étroite vallée de bitume et de béton sans même la remarquer. Il est vrai que l'odeur des ordures, amassées dans le fond, sous les volets de marches rouillées des escaliers extérieurs, incitait à détourner le regard. Surtout, les hommes et les femmes qui arpentaient les trottoirs ne savaient pas voir, comme Chasseur le savait, les signes laissés l'hiver dans la couche neigeuse et le reste de l'année sur l'asphalte amolli par la chaleur. Il s'engouffra de sa démarche claudiquante dans l'impasse. L'ombre portée des hautes façades aveugles, les fenêtres avaient été condamnées depuis longtemps, y entretenait une obscurité perpétuelle. Affûté par une traque plus vieille que la ville elle-même, le regard de Chasseur perçait les ténèbres sans difficulté. À chaque nouveau pas, les semelles de ses baskets enfonçaient la croûte de poudreuse toute fraîche avec un bruit de meringue qu'on écrase. Il pouvait distinguer la masse grise de la camionnette, coincée entre deux énormes poubelles utilisées par les employés du restaurant Thaï, les seules autres créatures qui fréquentaient l'impasse. Une porte unique, ouvrant de l'intérieur de l'immeuble, se découpait dans un encadrement de briques à côté du premier conteneur. Parfois, un cuistot ou un plongeur abandonnait un sac en papier empli des reliefs de repas délaissés par les clients, juste derrière la porte. Cela suffisait à caler l'estomac de Chasseur entre deux packs de bière. Il fit coulisser la porte latérale du véhicule monté sur cale. Il avait vendu les pneus l'année précédente, ou peut-être celle d'avant. Pas besoin de fermer à clé. Personne ne s'aventurait jamais aussi loin au bout de cette vallée perdue. Après un ultime coup d'œil sur l'impasse, il referma derrière lui. L'habitacle accueillait un lit de camp, un tabouret pliant et une table de camping, autant d'objets récupérés sur le trottoir les jours de grand débarras. Chasseur déballa ses achats, utilisa une allumette pour enflammer la mèche d'une bougie. Il remisa précautionneusement le fétu de bois demi-calciné dans sa boîte, puis fit couler un peu de cire liquide sur la table pour y coller la bougie. Satisfait, Chasseur se glissa sur la banquette, côté passager, enjambant le siège de toile pourri par l'humidité. Il récupéra le long étui métallique rangé dans le casier, au-dessus du pare-brise assombri par une épaisse accumulation de neige, et rejoignit l'arrière de la camionnette. Il prit le temps de boire une canette avant d'ouvrir l'étui. Il en descendit deux autres en contemplant ce qu'il y avait à l'intérieur. Patiemment, il attendit que la nuit tombe. Ce ne fut guère long. On était au cœur de l'hiver. Chasseur retira alors ses vêtements, qu'il abandonna en boule sur le siège du conducteur. Puis il s'empara du carquois et de l'arc, sortit de la camionnette. La neige enroba son pied nu, lui prodiguant une délicieuse caresse, déclenchant un frisson jusqu'au sommet de sa colonne vertébrale. Chasseur se retint pour ne pas hurler de joie. Le cri, monté d'un passé immémorial, resta bloqué dans sa gorge, à lui en faire mal. Il s'avança jusqu'à l'angle formé avec la rue. Le froid lui était un allié bienvenu, car il maintenait sa propre odeur plaquée contre sa peau, l'isolant du reste de la ville. Les poils sur sa poitrine et dans son dos formaient une protection suffisante contre la bise glacée qui soufflait par rafales dans la grande artère. Chasseur se mit en route, attentif aux moindres signes. Les vitrines des magasins s'étaient éteintes, les stores avaient été baissés. De rares voitures circulaient encore, croisant Chasseur sans ralentir. Les conducteurs l'ignoraient, tout comme lui se moquaient de leur destination, respectant en cela les accords du pacte passé avec la ville. Il se sentait vivant, parfaitement détendu, maître de ses réflexes. La première empreinte aurait pu se confondre avec celle d'un chien pour un œil non averti. Mais la taille et le nombre de coussinets ne correspondaient pas. Il la trouva devant une poubelle, aux abords d'un parc, non loin d'une baraque à sandwich fermée à 7 heures. Les papiers gras, disséminés alentour, portaient des traces de museaux fouisseurs, des déchirures de crocs. Chasseur arma son arc d'une flèche et s'engagea sur la pelouse du parc. Il tomba rapidement sur la piste de sa proie, tracée en diagonale sur le carré de neige. Elle se dirigeait vers la sortie opposée du parc, non loin du métro aérien. Une voiture stationnait sous le pont du métro dans le halo orangé de l'éclairage public. La circulation avait effacé la piste, mais Chasseur se trouvait suffisamment près de sa proie pour se laisser guider par son seul instinct. Il progressa à pas prudents, courbé en deux, l'arc brandi à l'horizontale devant lui et contourna la voiture. Il ne fut pas surpris de constater l'état de décrépitude du véhicule. La rouille avait dévoré les bas de caisse, trouant la carrosserie. Les pneus étaient lisses, une vitre fêlée, une autre manquait, remplacée par une feuille de plastique transparent. La ligne générale laissait deviner un modèle trop ancien pour être normalement autorisé à circuler. Mais qui s'en souciait ? La proie ne l'entendit pas approcher. Occupée à lécher un emballage de burger, elle se laissa surprendre en plein repas. Chasseur lui fit l'honneur de viser juste, à travers le plastique de la vitre absente. La flèche se planta dans l'occiput de la proie, qui s'affala d'un coup sur le volant. La longue plainte de l'avertisseur signala à la ville la victoire de Chasseur. Satisfait, il regagna l'abri de sa vallée où il passa le reste de la nuit à boire des canettes en l'honneur de sa proie, portant régulièrement des toasts à son âme errante. Le lendemain, Chasseur se réveilla en milieu d'après-midi. Il avait encore neigé le matin. La nouvelle couche de neige avait effacé les empreintes de la veille. L'impasse était pareille à un fleuve gelé, immaculé et vierge. Cette image rappela de vieux, vieux souvenirs à la surface de sa mémoire. Chasseur préféra les ignorer, tandis qu'il émiettait des morceaux du pain demi acheté la veille, qu'il roulait ensuite en boulettes compactes et fourrait au fond de son carquois. Peu avant la tombée de la nuit, il abandonna son repère. Il remonta la grande avenue perpendiculaire à l'impasse, puis doubla le supermarché où il avait l'habitude d'acheter ses allumettes et sa bière, le regard rivé au sol, sur la couche de neige sale et dure tassée par les milliers de semelles qu'il avait foulées pendant la journée. Il repéra la piste aux abords d'un parking, le long d'un mur bétonné qui s'élevait sur 4 étages, protégeant les centaines de véhicules parqués à l'intérieur de l'édifice. Le vent avait accumulé la neige en congère au pied de ce rempart infranchissable. La proie avait longé l'obstacle, enfonçant ses sabots dans l'agglomérat glacé, et les empreintes étaient demeurées figées, parfaitement nettes. Chasseur les suivit jusqu'à l'entrée du parking, une centaine de mètres plus loin. Là, le passage des véhicules avait effacé la piste, mais le flair de chasseur l'informa que la proie avait trouvé refuge dans les niveaux de bitume et de béton. Elle n'en sortirait pas avant que l'obscurité s'installe sur la ville. De cela, il pouvait être certain. Et il n'avait que peu de chances de la débusquer dans le parking, où ses sens seraient abusés par les vapeurs d'essence et d'huile. Mieux valait se montrer patient et rusé avec ce genre de proie. Chasseur déposa une poignée de boulettes de pain à l'entrée du parking, puis une deuxième un peu plus loin, sur le trottoir, de l'autre côté de la rue, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Il avait atteint l'endroit qui lui semblait idéal pour la mise à mort. Une ruelle tranquille entre 2 entrepôts de dépôt-vente qui allaient bientôt fermer. Il n'avait plus qu'à attendre. Le temps ne comptait guère pour chasseur. Quand on avait vu la forêt s'étendre et tout recouvrir, puis reculer sous les coups de hache des premiers sédentaires, et les huttes emplir les clairières, les villages s'agrandir, les villes les remplacer, quand on avait vécu cela sans jamais cesser de chasser, vivant à la périphérie des regards et des consciences des hommes, les heures n'avaient pas de sens. La lumière orange des lampadaires remplaça le jour laiteux. Chasseur attendait toujours, immobile. La proie finit par se montrer. Elle s'engagea dans la ruelle à pas lents, naseaux frémissants. Chasseur remarqua ses flancs creusés par la faim, la couleur terne de son œil noir. La corne, plantée sur son front, paraissait un fardeau lourd à porter. Elle avança un peu, ramassa une boulette de pain de mie qu'elle engloutit sans mâcher. Chasseur se réjouissait de la délivrer d'une aussi pitoyable agonie. Il l'imaginait galopant, fier et libre, dans de riches pâturages depuis longtemps fauchés, mis en bottes à sécher pour nourrir le bétail servile qui avait remplacé les créatures comme elle. Il encocha une flèche, banda son arc, visa. Il pensa, combien en restait-il? Combien d'autres créatures mourant à petit feu, dévoyées, oubliées, misérables entre toutes? Combien encore devait-il en traquer, inlassablement, nuit après nuit? Ce monde n'était plus le leur. Mais les créatures l'ignoraient. Elles ne savaient que vivre, inconscientes des bouleversements survenus. Chasseur savait donner la mort, la délivrance. Combien encore? La proie se trouvait maintenant au centre de la ruelle, occupée à dévorer une boulette de pain de mie. Il ne pouvait pas la manquer. Soudain, il la vit s'effondrer. Pourtant, il n'avait pas tiré. Perplexe, chasseur détendit la corde de son arc et s'approcha de la créature couchée sur le côté. Il remarqua le trou minuscule qui perçait le sommet de son crâne, juste au-dessus de la corne, au moment où il se pencha sur elle. Il n'y avait presque pas de sang, rien que ce petit trou rond. Non, ce n'était pas exact. Il y avait autre chose. D'abord, il crut qu'il s'agissait d'un parasite courant sur le pelage immaculé, une espèce de tique rouge. Mais c'était bien trop vif. Puis la chose rouge quitta le corps de la proie et sauta sur chasseur, remonta le long de sa jambe nue, s'attarda sur ses testicules, rejoignit son nombril, s'arrêta sur son cœur. Curieux. Il ne sentait rien à l'endroit où, pourtant, la chose rouge et brillante s'attardait. Il voulut la déloger d'une chiquenaude, mais elle sauta sur le dos de sa main quand il la plaqua sur son cœur. Quelque chose le frappa, si fort qu'il bascula dans la neige, le souffle coupé. Levant sa main à hauteur du visage, il découvrit qu'elle était percée d'un trou semblable à celui qui ornait le front de la proie. Il voulut se redresser, mais dut prendre appui sur son arc pour y parvenir. Un filet de sang coulait de sa poitrine, de l'endroit où il ressentait une morsure terrible. Il comprit qu'on le chassait. Lui, chasseur. La colère monta du fond de ses entrailles et il poussa un rugissement à l'adresse de l'ennemi. Un ennemi si lâche qu'il utilisait les armes des humains. Le parasite rouge réapparut sur son ventre. Chasseur fit un bond pour l'éviter, ce qui aviva la morsure faite à son cœur. Il vacilla, évita la chute grâce à son arc auquel il s'agrippait comme un pèlerin à son bâton. Claudiquant plus qu'à l'ordinaire, il parvint à rejoindre un coin d'ombre, à l'abri d'un panneau publicitaire et d'une poubelle débordant d'emballages en carton. Là, il s'effondra sur le tapis de neige, le souffle court et bruyant. Recroquevillé, il tenait son arc serré fort contre sa poitrine en feu. Un liquide chaud et salé lui emplit peu à peu la bouche. Quand il voulut cracher, la douleur lui déchira le ventre. Néanmoins, il expectora un jet de salive rouge, salissant la neige. Il resta ainsi prostré jusqu'au matin, à écouter le bourdonnement de sa vie qui le quittait comme le ressac d'une mer lointaine. Les images d'une plage d'avant les hommes lui revinrent en mémoire, compagne de son agonie. Il se souvenait de l'eau qui avait apporté la vie au commencement de tout, quand il n'était pas encore chasseur, mais une créature timide parmi toutes. Il mourut heureux, car il trouvait ça juste, même s'il regrettait de n'avoir pu contempler le visage de son ennemi. Après tout, sa dernière proie avait connu le même sort. Chasseresse rangea le fusil dans son étui, puis noua ce dernier dans son dos. Elle rabattit ensuite les pans de sa cape en laine par-dessus. Puis elle quitta le toit du magasin, engourdie par le froid et la position immobile trop longtemps maintenue. Elle espérait sincèrement que la créature à l'arc n'avait pas trop souffert avant de mourir. Elle aurait préféré la tuer sur le coup, mais la résistance des anciens était sans commune mesure. En bas, dans la ruelle, les premières voitures commençaient à circuler. Le cadavre de la créature cornue ne semblait pas les gêner. Les conducteurs faisaient un écart sur le trottoir, voilà tout. Chasseresse songea que la voirie ferait enlever la carcasse dans la journée, qu'elle serait brûlée quelque part et qu'on n'en parlerait plus. Elle avait eu de la chance de pouvoir suivre la piste des boulettes de mie de pain sans que l'archer se doute de quoi que ce soit. Il devait être omnubilé par sa propre traque. Elle songea qu'il lui faudrait, le soir venu, se glisser dans l'impasse où avait vécu sa première victime. Elle emporterait un bidon d'essence pour mettre le feu à la camionnette montée sur cale qui lui servait d'abri, et ainsi effacer les traces de son existence. Un ancien de moins, le premier sur sa liste. Les autres suivraient, le moment venu, elle avait tout son temps désormais. Chasseresse consulta sa montre. Si elle ne se dépêchait pas, elle allait être en retard. Il lui faudrait encore passer à son studio, cacher l'étui à fusil, se débarbouiller, elle rêvait d'une douche chaude, puis se rendre au boulot. Elle préférait travailler pour les humains et se payer un endroit décent où vivre. Elle n'était pas comme les anciens, restée fruste malgré les siècles et les siècles écoulés. Utiliser un arc et des flèches, vraiment. Elle s'ébroua et se mit en route. Une longue journée l'attendait à la caisse du supermarché. Eh, qui sait, avec un peu de chance, un autre client achèterait aujourd'hui un paquet de pain de mie et un pack de bière.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour poursuivre l'exploration des univers littéraires de Joanne Elliott, rendez-vous sur www.utopod.com dans l'article qui accompagne l'épisode d'aujourd'hui. Si notre émission vous plaît, continuez à en parler autour de vous. Plus nous aurons d'abonnés, mieux Utopod fonctionnera et plus nous pourrons vous offrir des nouvelles de qualité. Vous pouvez également nous faire un don en cliquant sur l'icône euro en pied de page de notre site. J'aimerais maintenant apporter une petite rectification à ce que nous avions dit dans notre dernier numéro, et ça concerne la revue Chimera, qui est donc une revue française et non pas belge, contrairement à ce que nous avions dit. Nos plus plates excuses au rédacteur en chef qui a très bien fait de nous signaler l'erreur. Dans Utopod, nous nous efforçons de dispenser des informations précises et fiables. Alors n'hésitez surtout pas à nous faire signe si une erreur se glisse ici ou là, que cela concerne nos émissions ou les articles de notre site. Et à présent, un petit peu de pub. Est-ce que vous connaissez la librairie Scylla? C'est une caverne d'Ali Baba, un lieu magique et hors du temps où le sympathique et passionné Xavier Vernet vous fera découvrir les littératures de l'imaginaire sous toutes les coutures. Vous y entrez pour acheter une revue en vitesse et vous en ressortez 5 heures plus tard, la tête pleine de rêves et de littérature. Et quelquefois, le porte-monnaie un peu vide, il faut bien se l'avouer, mais c'est pour la bonne cause. Bref, n'attendez plus, si vous passez par Paname, tombez de Caraïbes dans Scylla et laissez-vous envoûter. Le lien vers le site de la librairie est disponible sur utopod.com. Et puis nous aimerions évoquer Éon, petite maison d'édition en ligne qui fait de l'excellent boulot. Elle publie la revue Lunatique et réédite une foule d'auteurs francophones de talent, tels que Jean-Pierre Andrevon, Claude Aiken, Laurent Genefort ou encore Jean-Pierre Fontana. À propos de ce dernier, signalons la récente parution, aux éditions Éon justement, de Campleur le Crépuscule, édition révisée de la Colonne d'Émeraude, paru en 1992 dans la collection Anticipation du Fleuve Noir. Plus d'infos sur notre site. Enfin, nous vous rappelons que le site de l'association Infini offre à ses visiteurs près de 200 nouvelles insolites de science-fiction ou de fantastique, écrites par des auteurs des quatre coins du monde, y compris des francophones. Les nouvelles étrangères sont traduites en français. Au programme de ces récits, humour noir, angoisse, mystère, poésie et spéculation sur le futur. Chaque texte est accompagné d'une présentation de l'auteur et d'une courte bibliographie. Vous trouverez le lien du site sur utopod.com. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite de belles vacances d'été, ponctuées de nombreuses découvertes littéraires. Bye bye!